franceinter.fr.
Il est 7h30. Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Sans appel, les Grecs disent non à plus de 60% au plan d'austérité des créanciers. Le chef du gouvernement, Alexis Tsipras, espère maintenant pouvoir renégocier la dette du pays. La dernière ligne droite pour conclure un accord sur le programme nucléaire iranien. Il ne reste que quelques heures avant la fin officielle des discussions à Vienne. La canicule et ses conséquences au SAMU, le standard sature, en particulier dans l'est de la France. Et puis nous irons au Festival d'Avignon, où comment donner le goût du théâtre dès le plus jeune âge, Marc Fauvel.
Oui, jusqu'à 9h, édition spéciale en direct d'Athènes. On donnera la parole à la jeunesse grecque tout à l'heure, à l'un de ses visages en tout cas. Elle s'appelle Stéphania Xidia, elle a 28 ans, elle est animatrice d'une ONG citoyenne et elle est notre invitée tout à l'heure à 8h-10.
France Inter.
Les autorités françaises se sont voulues très rassurantes depuis le début de la canicule, mais le constat est là, du côté du SAMU, on frôle la saturation. Ce week-end, le nombre d'appels a explosé. C'est le cas surtout dans l'Est et le centre de la France. 16 départements sont encore ce matin en alerte orange, du Massif central à la Bourgogne. Écoutez le docteur François Braun, il préside le SAMU Urgence de France.
Ça touche essentiellement le quart nord-est, puisque les régions qui sont en difficulté, c'est la Lorraine, l'Alsace beaucoup, et puis la Franche-Comté. C'est dû à la durée, bien sûr, oui. Alors, je crois que globalement, les consignes sont pas trop mal respectées. Bon, ce serait quand même toujours bon de les rappeler, hein, mais c'est pas trop mal respecté. Et puis le fait que les gens appellent le SAMU, c'est plutôt, entre guillemets, bon signe. Ça veut dire qu'ils appellent quand ils ont le moindre doute. Mais là, quand même, avec la durée prolongée de cette canicule, on commence à avoir des pathologies directement liées à la chaleur et des pathologies graves aussi. Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Il faut que ça s'arrête. L'idéal, si vous pouvez faire chuter à température de 10 degrés, on est preneur. Non, je crois qu'il faut rappeler sans cesse les mesures de prévention et de précaution. Maintenant, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est la durée de la crise qui fait réellement la crise. Donc, on refera le point ce soir et on verra demain un peu comment la journée débute, parce qu'on nous annonce quand même une canicule qui va durer au moins jusqu'à mercredi.
Le docteur François Braun, président du SAMU Urgence de France. Et ce gros coup de chaud sur l'Europe aussi. Depuis hier, les résultats du référendum en Grèce sont sans appel. Les électeurs ont largement voté aussi non en grec, non au dernier plan élaboré par les créanciers du pays. Plus de 61% des votants rejettent les nouvelles mesures d'austérité imposées en échange d'une aide financière. Un score inespéré pour les partisans de Syriza, la gauche radicale au pouvoir. Ils ont manifesté hier soir dans les rues d'Athènes. C'est un reportage de Célia Kiré.
Des manifestations spontanées, des drapeaux grecs qui flottent au-dessus de la place Syntagma face au Parlement, des sourires d'espoir. Hier soir, la victoire du non était éclatante, inespérée pour les partisans de Syriza.
It's a big win for Europe, not only from Greece.
C'est une grande victoire pour l'Europe, pas seulement pour la Grèce. L'Europe des peuples, pas celle des marchés. C'est une date historique pour la Grèce. Ce nom est un jour national pour l'Europe, pas seulement pour la Grèce.
Les ministres et les députés de la coalition de la gauche radicale ont été acclamés hier soir. Alexis Tsipras a réussi son coup de poker, c'est une étape. Cet ingénieur avait les larmes aux yeux, il ne pensait pas vivre ce moment après la victoire de Syriza le 25 janvier.
Je suis plus content maintenant que le 25 janvier, parce que maintenant c'est le peuple grec qui a décidé de se libérer de toute cette nuage noire qui était imposée sur nous.
Hier soir, pendant quelques heures de fête, les Athéniens ont oublié le cauchemar de la semaine dernière. Ils ont retrouvé leur fierté légendaire et l'espoir d'un avenir bien meilleur. Athènes, Laurent Macchietti, Célia Kiré, France Inter.
Et pour le chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras, c'est une victoire. C'est lui qui a organisé le scrutin en moins de 10 jours et qui a fait campagne pour le non. Hier, le dirigeant grec a joué l'apaisement. Il ne s'agit en rien, selon lui, d'une rupture avec l'Europe, mais au contraire d'un renforcement du pouvoir de négociation d'Athènes. Une victoire en tout cas saluée par les plus proches cousins, entre guillemets, de Syriza en Espagne, le parti Podemos. Marie-Hélène Ballestero nous appelle de Madrid.
Aujourd'hui en Grèce, la démocratie l'a emporté. C'est ce qu'a déclaré hier soir Pablo Iglesias, le leader du parti espagnol antilibéral Podemos, sur son compte Twitter. Iglesias qui en a profité aussi pour changer la photo de son profil et il en a choisi une où il apparaît les bras levés aux côtés de son ami Alexis Tsipras lors du dernier meeting de campagne du leader de Syriza le 22 janvier dernier, juste avant les élections grecques. Comme prévu, la victoire du non en Grèce a été accueillie avec joie par Podemos qui, dès l'annonce de la tenue du référendum, avait soutenu son allié grec. Vendredi dernier, lors d'un meeting en Galice, Pablo Iglesias avait lancé à son ami Tsipras « Ne cède pas, tu es un exemple de courage et de solidarité ». La victoire du non en Grèce va forcément donner des ailes à Podemos alors que les élections législatives en Espagne doivent avoir lieu à la fin de l'année. Selon les derniers sondages, Podemos serait au coude à coude avec les deux grandes formations traditionnelles, le parti socialiste PSOE et le parti populaire actuellement au pouvoir. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Et la victoire du non en Grèce a également été saluée en France par Jean-Luc Mélenchon qui a applaudi, je cite, « le courage immense du peuple grec ». Jean-Luc Mélenchon entouré hier soir de plusieurs centaines de manifestants à Paris, place de la République. Un enthousiasme que ne partage pas l'Allemagne. De nouvelles discussions sont difficilement imaginables, a lâché hier le ministre de l'économie Sigmar Gabriel. En tout cas, pour ne pas rompre le dialogue, le président François Hollande reçoit ce soir à l'Élysée la chancelière Angela Merkel. Un sommet de la zone euro doit également avoir lieu demain soir. Et France Inter, et ce matin en direct d'Athènes, on retrouvera Marc Fauvel et ses invités à la fin de ce journal. Des négociations tout aussi ardues à Vienne, cette fois à propos du programme nucléaire iranien. Les ministres se réunissent de nouveau aujourd'hui dans la capitale. Ils ont officiellement jusqu'à demain pour tomber d'accord sur un texte. Téhéran doit s'engager à ne pas développer d'armes atomiques. En échange, les sanctions économiques seront levées. Les précisions à Vienne de Ludovic Piétenu.
Tous les ministres, sauf le chinois, sont revenus à Vienne hier soir. Chacun y est allé de sa déclaration. L'heure est à la conclusion, ont-ils fait savoir, comme le ministre français Laurent Fabius.
Désormais, toutes les cartes sont sur la table, mais tout doit être clarifié. Et la France, dans cette phase-là, aura la même attitude que celle qu'elle a toujours eue, ce que j'appelle la fermeté constructive. Et donc, nous nous préparons à ces deux jours de négociations intenses.
À la fin, nous gagnerons tous ou nous perdrons tous, a dit l'Allemand Steinmeier, insistant sur la volonté de trouver un compromis pour sortir enfin de 12 années de négociations. Son homologue américain John Kerry a été clair, nous ne sommes pas encore arrivés là où il faudrait. Le président Obama l'a toujours dit, nous sommes prêts à nous retirer, nous voulons un bon accord et seulement un bon accord. Si certains propos peuvent inquiéter, l'atmosphère, le baromètre de ces négociations est plutôt orienté à l'optimisme. Vienne, Ludovic Piétenu, France Inter.
7h38 sur France Inter, retour en France. La montagne ne s'est pas écroulée dans le lac du Chambon.
Et pourtant, Marc, tout le monde était en alerte hier en Isère. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de roches menacent de se décrocher de la montagne pour glisser dans le lac. Le phénomène devait avoir lieu hier soir, au plus tard, selon les autorités. Et le problème de ce retard, ce sont les riverains qui doivent traverser la zone, boucler jusqu'à nouvel ordre. La région PACA a donc débloqué 30 000 euros pour financer un pont aérien. Reportage au lac du Chambon avec Nicolas Crozet.
Heureusement que j'ai affaire à des montagnards qui savent que c'est la nature qui décide.
Quelques minutes après avoir répondu aux journalistes sur le belvédère qui domine le lac, le préfet de l'Isère, Jean-Paul Bonnetin, croise Philippe Rébaudy, le responsable du collectif des habitants. La conversation s'engage.
Il ne suffit pas de signer un arrêté préfectoral pour que la falaise dégringole. Ça serait trop bien, il serait déjà signé depuis longtemps. Je m'en doute.
Philippe Rébaudy vient d'apprendre que la région PACA est prête à débloquer 30 000 euros pour mettre en place des navettes par hélicoptère pour les habitants qui doivent passer d'un côté à l'autre pour aller travailler. Il ne manque plus que l'accord du préfet de l'Isère. Jean-Paul Bonnetin ne dit pas non, mais...
Je rappelle que pour l'instant, dans la perspective d'une rupture massive de la falaise, j'ai pris en arrêté. Le survol du lac est interdit, sauf aux équipes qui ont en charge la sécurité, nos amis des gendarmes, avec les géologues pour l'observation et le suivi du terrain. Mais si les choses sont compatibles et possibles, bien évidemment, nous ferons tout pour limiter la gêne.
En clair, priorité à la sécurité, pas question de risquer un accident en faisant voler des civils au-dessus du lieu où peut se produire l'éboulement. Philippe Rébaudy se veut pourtant confiant.
Il a bien dit, c'est un geste fort. Quand je lui ai demandé, bon, on peut faire un petit écart à l'hélicoptère, on peut passer un kilomètre en aval ou un kilomètre en amont du lac. Donc je pense que le préfet va tout faire. Il n'y a pas de citoyen de seconde zone. On doit faire en sorte que tout le monde puisse continuer à travailler et ne pas souffrir de quelque chose qui échappe de toute façon à des moyens techniques.
Le préfet de l'Isère devrait donner sa décision dans la matinée.
Le Tour de France et le vent et la pluie hier ont fait mal aux coureurs. Le Suisse Fabian Cancellara récupère le maillot jaune à l'issue de l'étape entre Utrecht et Zélande. Aujourd'hui, après les Pays-Bas, direction la Belgique avec un peu plus de 159 km entre Anvers et Huy. Et puis c'est le plus grand festival de théâtre de France et il a commencé ce week-end. Le festival d'Avignon n'oublie pas les enfants cette année. Une partie de la programmation officielle est consacrée au jeune public. La chapelle des Pénitents Blancs leur est même dédiée. Une manière de donner le goût du théâtre le plus tôt possible. Stéphane Capron a assisté ce week-end à Riquet, une adaptation d'un conte de Charles Perrault.
Riquet, c'est un conte populaire de Perrault. L'histoire d'un prince pas très beau qui finira par se marier avec une princesse très belle qui se laissera convaincre par sa beauté intérieure. Dans le spectacle de Laurent Brotteaume, ce sont les femmes qui prennent leur destin en main.
Dans le conte de Perrault, moi ce qui ne me plaisait pas, c'était le message qui était dit, où c'est un conte assez machiste. Et là aujourd'hui, chez nous, les femmes décident si elles ont envie de tel ou tel homme. Les femmes peuvent envoyer bouler leur père, elles ne sont pas prédestinées. Et surtout, les femmes arrivent à dire « En fait, j'ai pas besoin d'être un prince pour être une princesse. Si je décide d'être une princesse, je le suis si je veux. »
Et les enfants du collège Saint-Michel d'Avignon ont bien compris la morale de l'histoire.
Il y avait de l'amour, il y avait des sentiments. C'est un garçon qui est moche, mais il est intelligent. Enfin, faut pas se fier à ses apparences.
Ça veut un peu dire que tout le monde est comme il est et que chacun a des défauts et des qualités. Même si on est moche ou beau, on peut s'aimer.
Je suis Christophe Riquet. Le premier prince de la nuit.
Le prince de quoi ?
Le prince de la nuit. Personne ne m'a jamais vu parce que je viens de la forêt sans lumière.
Pour ce spectacle, Laurent Brotteaume utilise des marionnettes, des projections en ombre chinoise et de la peinture réalisée en direct par un plasticien. Des procédés simples, sans technologie, et cela crée beaucoup de poésie sur le plateau.
Et le festival d'Avignon, c'est jusqu'au 25 juillet. Et puis en Grèce, les événements s'accélèrent puisqu'on apprend à l'instant que le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a démissionné des événements que l'on va continuer de commenter sur France Inter puisque nous sommes ce matin en direct d'Athènes. Fin de ce journal, Marc Fauvel.